There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
On a besoin de dire quand le monde est à chier, quand on est en colère, quand on n'est pas bien, on a le droit de le dire. On n'est pas obligé d'être performant tout le temps, faut arrêter, on n'est pas des articles médiums.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Taous Merakchi, aussi connu sous le pseudonyme de Jack Parker. C'est son second passage dans Nouvelle École et on parle de son nouveau livre « Lettre à l'ado que j'ai été ». C'est un livre qui recoupe de nombreuses thématiques abordées dans Nouvelle École et dans lequel figurent beaucoup de gens passés par ce podcast. On revient donc sur les moments difficiles de l'adolescence et les leçons qu'elle en a tirées sur différents plans, les émotions, la communication, le besoin d'être accepté. Elle raconte beaucoup d'histoires, on parle de son enfance, de sa relation libre, tout ça dans une ambiance vraiment sympa. Pensez à vous abonner sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute.
Un autre truc que j'ai envie de faire, et là on va voir si j'y arrive, c'est que j'aimerais bien ne pas me dire dans cette discussion est-ce que ça va intéresser les gens sur Nouvelle École, parce que c'est un peu un travers dans lequel je suis tombé, je trouve récemment.
Ouais.
Je trouve que je structure mieux mes interviews, que c'est plus intéressant, mais du coup je me surprends trop souvent à me dire est-ce que ce qu'on est en train de dire ça intéresse les gens qui écoutent, alors qu'en fait ouais. Je me dis si ça m'intéresse, a priori, ça intéresse les gens qui écoutent.
C'est ça. C'est le truc le plus difficile à faire en tant qu'artiste, je crois.
Eh ben, on y va.
Oui.
Bam. Bienvenue, Taous Merakchi, sur Nouvelle École.
Merci.
Pour ta deuxième apparition.
Et ouais.
Tu es la deuxième personne à faire un comeback. Donc,
mais je croyais que j'étais la première.
Et non, tu n'es pas la première. Il y a eu un type qui s'appelle Alexandre Dana qui a une.
Mais je me casse.
Ben voilà. Merci pour cet épisode. Donc, Taous, tu es aussi connu sous le nom de Jack Parker.
Tout à fait.
Et tu avais sorti un livre qui s'appelait Le Grand mystère des règles, dont
ouais.
On avait longuement parlé.
Ouais.
Et là, tu sors un nouveau livre, en tout cas un livre qui a été rédigé sous ta direction,
ouais.
Qui s'appelle « Lettre à l'ado que j'ai été mm-hmm. », que j'ai en face de moi, que j'ai également torturé, c'est-à-dire souligné, annoté.
Tu crois ouf.
Moi, je fais ça avec les livres.
Ah,
je supporte pas qu'on me dise que j'ai pas le droit de faire ça avec les livres. Genre, j'ai quand même donné... Ah non, non c'est pas...
Bah non,
ah
non, en plus, tu l'as pas payé.
C'est vrai, je ne l'ai pas payé, je l'ai reçu gratuitement. Ce sont les perks d'être un podcasteur.
Donc en fait, il n'y a même pas d'argent qui va à l'association, là.
Non,
et t'as juste massacré ce livre pour rien.
Et en plus, on va parler de toi pendant une heure, donc vraiment, j'ai tout bénef. Et toi, tu n'y gagnes rien. Donc, Lettre à l'ado que j'ai été, qui est un recueil de lettres,
ouais.
Écrites par différentes personnes, il y en a qu'on connaît sur Nouvelle École. Alors, je vais en dire quelques-unes, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, il y a Marion Séclin, il y a toi, bien sûr, en bah ouverture
oui.
du livre. Il y a Patrick Beau, Bérangère Krief, il y a Lorraine Bastide, de Nouvelles Écoutes et de La Poudre, qui a fait une super lettre, d'ailleurs, je trouve.
Ouais.
Vraiment bien. Je lui ai écrit, d'ailleurs, pour le dire.
Oh.
C'est vrai. J'essaie de faire ça maintenant.
C'est bien.
Tu sais,
c'est
quand
très important.
Trouve des trucs bien.
C'est parce que tu as eu Marion en interview, c'est ça? C'est ça qui t'a convaincu?
Alors non, à qui j'ai aussi écrit pour dire que c'était bien.
Ah, c'est bien.
Non, c'est, je me suis dit, j'ai pas, non, c'est à force de lire des trucs de self-help pendant des années, j'ai lu beaucoup trop de fois qu'il fallait dire aux gens que c'était bien ce qu'ils faisaient, et puis ça
c'est
me fait plaisir
important.
Moi quand on me le dit. Donc il y a aussi Flaubert, il y a Lucien Maine, bref, il y a du monde.
Ouais.
J'ai l'impression d'avoir commencé comme Ardisson là, bref, il y a du monde. Et en fait, ce sont des lettres de ces personnes à la version de l'ado qu'ils étaient.
Ouais.
Et comme je te disais juste avant, je voulais que tu viennes et qu'on en parle parce que je trouve que ça recoupe vraiment bien toutes les... J'ai donc lu le livre. Hein,
j'espère.
En plus de l'avoir eu gratuitement. et je trouve que ça recoupe très bien les thématiques qui ont été abordées pendant un an bientôt. Là, ça fait un an que je sors Nouvelle École chaque semaine. Et donc, je trouvais que c'était une bonne manière de parler de tout ça.
Ouais.
Et je voulais quand même commencer par te poser cette question. Pourquoi, en fait, ce livre maintenant ?
Maintenant, le timing, c'est vraiment juste une question d'opportunité bête. C'est que, comme je l'ai déjà raconté, et je tiens à cette anecdote parce que je pense que c'est une très bonne leçon pour tous les artistes, ce livre est né d'un dimanche soir de fièvre. J'étais allongée dans mon lit, il était 23h, j'étais en train d'agoniser, en train de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie après le grand mystère des règles. Et j'ai eu cette idée, je ne sais pas d'où ça m'est venu, à force de réfléchir au thème de l'adolescence, qui est quand même un thème qui m'est cher et qui m'obsède un peu. Il y a ça qui m'est venu en tête et du coup, je me suis dit, on sait jamais, je vais tenter. J'ai envoyé un mail à mon éditeur en disant, je viens d'avoir cette idée à la con, tu me dis si c'est de la merde, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, il me dit, pour une idée à la con de 23h, elle est super bien. Et dans la journée, on avait confirmé qu'on allait se lancer sur ce projet-là. Donc pour moi, c'est vraiment la preuve qu'il ne faut pas garder ses idées pour soi, même si on a super peur de l'échec, parce que j'aurais très bien pu rester assise sur cette idée pendant longtemps et ne jamais rien en faire en me disant, non, mais ça n'a aucun intérêt, ou je l'aurais vendu... de façon vachement plus molle et moins convaincue. Là, j'ai vraiment fait le truc. J'ai eu l'idée, j'ai proposé, point barre, et ça s'est fait. Donc, pour ce qui est du timing, c'est vraiment un hasard. Et pour le reste, c'est parce que, comme je t'ai dit, l'adolescence, ça m'obsède parce que la mienne a été tellement pourrie que je passe ma vie à essayer de la rattraper et à essayer de la revivre.
On va en parler.
Ah, voilà.
Ah, tu penses que la leçon de ce que tu dis, c'est qu'il faut essayer, il faut parler de l'idée desquelles t'arrives ?
Pas forcément desquelles t'arrives, mais en tout cas, il ne faut pas attendre qu'on vienne te chercher. Et ça, c'est le truc que j'ai appris au fur et à mesure de ma carrière. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans le premier épisode, d'ailleurs.
Non, mais le premier épisode, on peut en faire abstraction. C'est comme s'il n'avait jamais existé, comme ça, on peut reparler de tout.
Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont me découvrir là, qui n'ont pas du tout écouté l'autre. C'est très, très possible.
Voilà.
J'ai écrit Le Grand Mystère des Règles parce que j'ai lancé un blog avant. Et c'est comme ça que Flammarion m'a repéré. Je suis en train d'écrire un truc sur la sorcellerie moderne parce que j'ai lancé une newsletter avant. Parce que, et du coup, après, je me suis renseignée dans mes réseaux d'éditeurs en disant est-ce que ça pourrait intéresser quelqu'un. Mais en fait, j'agis avant d'attendre qu'on vienne me chercher parce que j'ai passé des années à me dire il y a forcément quelqu'un à un moment qui va venir me voir en disant c'est toi.
Toi, t'as attendu qu'on vienne te chercher ?
Ouais, bien sûr. Mais parce que j'arrivais pas à imaginer que ça puisse se passer autrement. Pour moi, c'est le fameux mythe de la top modèle qui a été repérée pendant qu'elle faisait ses courses, quoi. Genre, ouais, elle a été vue dans un supermarché, il y a un agent qui l'a croisée, qui a dit c'est elle, et c'est devenue Naomi Campbell ou Claudia Schiffer.
Tu crois que c'est spécifiquement féminin ce truc de on va venir me chercher ?
C'est très beau.
Moi, je me suis jamais dit on va venir me chercher.
Je pense que, ouais, parce que on n'apprend pas aux femmes à s'imposer, on leur apprend pas qu'elles ont de la valeur, on leur apprend à être cueillies. On est des fleurs. C'est vraiment, le mec va venir te faire la cour, on va venir te proposer ceci, cela, machin, mais en gros, marche pas sur les plates-bandes des autres, déborde pas de tes limites, dessine pas en dehors des traits, et va pas de l'avant, quoi. Et ça, bon, ça fait un moment que ça change maintenant. Mais je pense que même quand on... Moi, j'ai pas du tout été élevée avec ces concepts-là, et même... Avec cette éducation-là, je me retrouve à avoir des réflexes comme ça à la con de me dire...
Toi, t'as été élevé avec on t'a dit de faire des choses.
Ah ouais, mais mes parents m'ont toujours encouragé à faire ce que j'avais envie de faire et puis que ça marche ou pas, c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer de faire mon mieux et d'être contente de moi et d'être heureuse et tout le reste, on s'en fout.
Et donc, tu dirais que quand t'étais gosse, tu faisais des choses et qu'à un moment, t'as arrêté en attendant qu'on vienne te chercher ?
Bah ouais, et là, c'est clairement lié, justement.
C'est quoi les choses que tu faisais quand t'étais...
Je rêvais d'être journaliste et donc du coup j'ai créé un journal. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait Paris Boom Boom, qui était un magazine gratuit qui était distribué dans les rues. Et donc j'ai créé mon propre magazine où je faisais des articles sur, par exemple, la mode des chaussures compensées à l'époque des Spice Girls. Donc du coup j'avais 11 ans.
Ah oui, donc t'as créé un magazine à 11 ans.
Ouais. Et j'avais pas de photocopie, j'avais pas d'argent. Et donc du coup j'ai fait plusieurs copies à la main. Que je suis allée disposer dans les stands de Paris Boom Boom pour pouvoir... Donc il y a peut-être des gens dans Paris qui ont ce truc chez eux parce que je ne sais pas du tout qui les a récupérés.
Si vous les avez, manifestez-vous.
S'il vous plaît, j'aimerais trop les revoir. Et du coup, ouais, j'avais plein d'initiatives comme ça. Je me souviens qu'avec un copain, à un moment, nos mères étaient en train de boire un coup ensemble et on voulait de l'argent de poche et on n'en avait pas parce qu'on avait déjà tout dépensé. Et du coup, elles nous ont dit, faudra attendre la semaine prochaine, logique, hein, ils ne nous ont pas élevés comme des enfants rois. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent ? faut travailler, faut créer des choses, il faut vendre des choses. Et donc on s'est mis à faire des sculptures avec des pailles et on s'est assis par terre sur le trottoir et on a essayé de vendre nos sculptures.
En fait, vous étiez des super entrepreneuses.
Mais c'était Startup Nation.
Bah ouais, complètement, parce que moi justement, je me souviens qu'au début de Nouvelle École, je disais souvent que moi, j'étais pas du tout justement ce genre de gosse à dire on va faire un stand de limonade comme ça on pourra partir en vacances.
Mais c'est marrant parce que tu m'aurais posé la question à froid, je t'aurais dit que j'étais pas ce genre de gosse et c'est là, en parlant de ça, je me rends compte que si, j'étais complètement comme ça.
Et pourquoi est-ce que on oublie alors et pourquoi moi, est-ce que toi tu t'as
moi,
arrêté?
C'est parce que j'ai été brimée et parce que pendant des années on m'a répété que j'étais qu'une merde et que je ferais rien de ma vie et que j'avais aucune valeur, chose que je n'avais jamais entendue avant parce que j'ai été élevée dans un milieu très cool et très très pédagogique et très encourageant pour les enfants et sauf qu'en fait je suis arrivée au collège et là ça a été la descente aux enfers et à force d'entendre un truc tous les jours tu finis par le croire.
C'est le collège vraiment qui
a fait mais vraiment la cassure a été tellement nette parce qu'en primaire j'étais une enfant mortelle, j'étais le genre d'enfant chiante et insolente mais tellement cool et première de la classe que du coup tu peux pas la détester. Ouais. Tu vois, tous les profs m'adoraient, si je tapais un mec parce qu'il m'avait fait chier et qu'il allait chialer, les profs lui disaient si elle t'a tapé, c'est qu'elle avait une bonne raison. C'était vrai, je portais jamais le premier coup.
Hein ? Peut-être que lui te détestait.
Ouais, mais il se rendait vite compte que socialement, c'était pas viable de me détester. C'était pas une bonne idée.
Et après, il y a eu perte de statut en arrivant au collège.
Ah ouais, ça a été violent parce que vraiment, j'étais moi-même entièrement et sans censure et sans. Parce que mes parents m'ont toujours encouragé, leurs amis aussi, le corps enseignant aussi, mes potes aussi. Et j'avais même pas une bande quand j'étais en primaire, j'étais de toutes les bandes.
C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est la première fois que t'arrivais exactement comme t'es, que tu te montrais au monde en fait, ouais. Exactement comme t'étais, et t'as été puni pour ça, en quelque sorte.
C'est exactement ce qui s'est passé pendant des années, ils m'ont puni d'être moi-même en fait, et de ne pas chercher, j'ai cherché mais j'ai pas réussi à rentrer dans le moule comme ils l'ont tous fait, parce qu'au collège c'est justement la période où on a besoin d'étiquettes, on a besoin de repères, on a besoin de clans, on a besoin de pouvoir définir clairement qui sont les amis, qui sont les ennemis, qui sont les gens de notre même catégorie socioculturelle, et c'est compliqué parce que moi j'étais de rien, j'étais vraiment de tout et de rien, j'avais pas de clan à proprement parler. J'avais plein de petites originalités, plein de petits trucs qui faisaient que j'étais pas une enfant entre guillemets comme les autres, ce qui est une très bonne chose, je tiens à le dire.
C'était quoi, les
originalités ? Comme je le mentionne dans le bouquin, et c'est pas pour rien que je fais ce genre de truc aujourd'hui, mais je lisais des magazines d'ésotérisme, genre Sorcellerie Magazine, je sais plus comment ça s'appelait, ou Rituel et Sortilège, ou je sais pas quoi. Je lisais ça en plein milieu de la cour. À un moment, j'ai voulu devenir bouddhiste, donc du coup, je sortais des statues de Bouddha que je mettais sur ma table quand on avait un contrôle. Je m'habillais pas du tout à la mode, j'avais des pantalons trop courts, les lacets défaits, les cheveux en mêlée, des vieux pulls tricotés dégueulasses, parce que je m'en foutais, c'était pas important pour moi.
En tout cas, quand t'es arrivé, ça t'était pas important.
Non, mon idole absolue, c'était Michael Jackson à l'époque où tout le monde écoutait Skyrock dans mon lycée dans mon collège du 11e. Du coup, ils étaient tous en jogging et en Nike, et moi, je faisais des chorégraphies de Michael Jackson. Et sauf que en primaire, c'était hyper populaire, et au collège, tout le monde s'en foutait. C'était devenu moins cool parce que maintenant, c'était juste Michael Jackson le pédophile, tu vois.
C'était en mauvais timing sur Michael Jackson.
C'était pas le bon moment. Mais voilà, j'étais fan de films d'horreur depuis toujours, de tous les trucs qui font peur, de tous les trucs macabres et morbides. Un dimanche idéal pour moi, c'était un dimanche passé à me promener dans les cimetières, à nettoyer les tombes. Mais parce que c'est ce que j'ai toujours fait avec mon père, ça fait partie des rituels que j'avais avec mon père, c'est qu'on se promenait dans les cimetières pour aller voir les chats errants. Parce que c'était calme et parce que je vis à Paris et que le Père Lachaise, c'est quand même un des cimetières les plus cool du monde.
C'est vraiment un des endroits les plus calmes.
Voilà, c'est hyper agréable et surtout, c'est pas mal vu de se promener au Père Lachaise. C'est pas un petit cimetière de province où il y a vraiment des gens qui viennent se recueillir sur la tombe de leurs proches. Il y a vraiment de tout au Père Lachaise. Il y a tellement de personnalités que c'est un lieu touristique. Donc, on se sent pas...
C'est un bon rituel, ça. Enfin, ça devait être un bon rituel de se balader avec son père dans le cimetière.
C'était génial.
Tu peux vraiment... C'est un endroit où du coup, vu qu'il y a... C'est silencieux, tu dois pouvoir parler ou en tout cas partager quelque chose de vraiment intime en fait.
Bah ouais.
Moi je vais souvent au cimetière, là j'exagère quand je dis souvent parce que ça fait un moment que je suis pas allé, mais je vais au cimetière de temps en temps m'asseoir et en fait c'est des moments agréables quoi.
Bah ouais, moi quand j'avais 20 ans et que j'étais dans la période dark, j'allais m'asseoir sur la tombe de Jim Morrison, enfin à côté parce qu'elle est clôturée, on peut pas se mettre dessus. J'allais me mettre sur un mausolée derrière pour écrire des poèmes en fumant des clopes. et en jugeant tous ceux qui étaient
méchants avec toi.
Non, même pas, en jugeant tous les touristes qui venaient se recueillir sur la tombe de Jim Morrison, en disant putain, les moutons, n'importe quoi. Alors que moi, j'étais là comme une connasse de poseuse, habillée comme The Crow, assise sur les marches.
C'est eux qui devaient se dire, regarde.
Mais grave, c'était moi le cliché. Mais c'était une époque où j'étais tellement renfermée sur moi-même que j'avais aucune conscience de tout ça et que j'étais juste effacée du monde. J'en faisais plus partie. C'était quand j'avais 20 ans et vraiment toutes ces années collège-lycée, ça m'avait ravagée et j'étais un fantôme, quoi. J'avais bien ma place dans ce cimetière.
Parce qu'il s'est passé quoi au collège ?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé au collège ? Je m'allume une clope parce que c'est un moment intense.
Non, puis parce qu'on est sur un podcast. On arrive assez proche de l'ambiance des émissions de télé.
C'est exactement ce que j'allais dire.
J'y travaille, hein, c'est petit à petit.
J'ai l'impression d'être dans une parodie des Inconnus.
Pourquoi une parodie ?
Parce que moi, je suis trop jeune pour avoir connu les vrais moments où ça fumait à la télé. Donc moi, j'ai vu les parodies.
Mais non, j'ai vu les interviews de Jacques Brel sur YouTube.
Oui, voilà.
Ça, c'est les meilleurs. En exactement. Plus, Jacques Brel, là, je viens de dire Jacques Brel.
Jacques Brel.
Non, mais Jacques Brel, en fait, gros, ce serait un gourou de self-help maintenant, s'il existait, tu sais. Il sort que des principes que tu lis dans les bouquins américains. Ouais. Bref, du coup, collège.
Donc, je suis arrivée au collège au deuxième trimestre. J'étais dans un premier collège avant ça, et ensuite j'ai déménagé. Et donc, comme j'ai changé de quartier, il fallait que je change de collège. Et le premier jour, j'arrive en cours de français. La classe de Monsieur Gaché, hein, s'il est là, hein, voilà. Je m'assois et je me prends une gomme dans la gueule.
C'est marrant comme nom Gâché pour ton premier jour
c'était
de collège.
Quand même, franchement, moi qui crois aux signes et qui suis très spirituel, j'aurais dû me dire je peux changer de classe.
Tu t'es pris quoi, tu m'as dit ?
Une gomme dans la gueule.
Une gomme, ouais.
Donc rien de terrible. Mais je me suis retournée, j'ai jeté un regard noir et j'ai protesté parce que c'est comme ça que j'ai été élevée. Et là, je me suis pris une pluie de projectiles sur la gueule. Et le prof a dit « calmez-vous, c'est pas comme ça qu'on accueille une nouvelle élève, machin, bref. » Et on est passé à autre chose. Mais ça a été vraiment la première minute de mon entrée dans ce collège. Je me suis pris des projectiles dans la gueule. Et ça n'a plus jamais arrêté pendant les 4 ans qui ont suivi.
C'est marrant, ce truc de premier jour. Le premier jour, il avait été assez déterminant pour moi. Je viens de m'en souvenir, en fait, quand tu dis ça. On était répartis dans les classes 6e 1, 6e 2, mais un peu comme à Poudlard en moins fun, quoi.
Tout à fait.
Mais vraiment, tu te disais, est-ce que je vais être avec mes potes et tout ?
Ouais.
Sauf que j'avais vraiment très peu de potes. parce que je venais d'une classe de CM2, d'un tout petit village où on était peut-être 10 dans la classe. Donc on arrivait dans le collège et il y avait peu de chance d'être avec les 10, quoi. Et je me souviens qu'il y avait deux types derrière moi, enfin deux gamins, du coup, qui me mettaient des coups, en fait, dans mon sac quand on montait les escaliers. Et je sais pas ce qui m'a pris, mais je suis fier de moi avec le recul. Je me suis retourné et j'ai mis un énorme coup de poing dans le premier qui est venu. Et ça, j'ai l'impression que ce truc a été déterminant pour la suite de mon collège.
Vraiment de la meute, en fait. Il faut que tu te détermines comme alpha et il faut que tu acceptes les défis qu'on te lance parce que sinon, tu te fais niquer.
Moi, j'étais
débile,
pas du tout alpha pour le coup. J'avais des grosses lunettes, des pulls tricotés.
Mais t'as eu une réaction d'alpha et résultat, ça a déterminé le reste, quoi.
Ouais, enfin, c'est pas que je me suis plus jamais fait bolos, j'ai réussi à zigzaguer. Ouais. J'ai été assez bon dans le zigzag, quoi. Tu vois.
Mais j'en connais plein, comme ça, justement, des gens qui sont passés entre les mailles, qui ont été ni populaires, ni tyrans, ni losers, et qui ont été vraiment juste je suis de passage. Ouais. Je me prends un coup de temps en temps, j'ai un moment fun de temps en temps, mais sans plus.
Parce que pour le coup, je suis assez d'accord que le collège, pour moi, c'était le pire moment, pire endroit. C'est là où les gens sont les plus cons. Ouais. Et c'est un environnement tellement violent, je trouve. Avec le recul, je me dis si un jour j'ai des gosses, je sais pas si je vais avoir trop envie de les mettre dans un collège.
C'est un truc qui me fait vraiment flipper parce que c'est dans mes projets dans les, on va dire 3 années à venir, tranquillement. Hein. Mais
vous l'aurez eu en exclu sur Nouvelle École.
On fait le point dans 3 ans et c'est vraiment un truc qui me fait super peur de qui vivent la même expérience que moi, quoi. Alors je pense que je serais plus vigilante. Que ma mère l'a été et en même temps ma mère elle est pas complètement en tort dans l'histoire parce que je lui ai beaucoup caché ce qui m'arrivait parce que je voulais pas l'emmerder.
Mais voilà, c'est ça. D'où est-ce que la vigilance est vraiment utile parce que je pense que tous les parents de tous les temps se disent ça, je vais être plus vigilant.
Il y a des trucs que tu vois pas.
Bah ouais, mais en fait tu vois rien.
Bah oui.
Moi ma mère que j'aime beaucoup, hein, mais je pense qu'elle a rien capté de la plupart des choses qui me sont arrivées quand j'étais, parce que je le disais pas, parce que à partir du moment où t'as 12 ou 13 ans, tu passes 90% de ta vie dehors avec d'autres gens, et puis que c'est ça qui est important, en fait.
Bah
quoi.
Oui. Et surtout, ce que j'ai appris bien plus tard, on en parlant avec ma mère, que j'avais complètement occulté, c'est que je lui mentais. je rentrais de l'école et je disais ouais, j'ai joué avec machin, avec bidule, avec truc, et ces gens n'existaient
pas. Pourquoi tu les montais ?
Et je ne sais pas. En fait, je pense qu'il y a. Ma mère était dans une période de transition à ce moment-là, donc ça a été une période de chiante pour tout le monde. Elle a arrêté de bosser et elle a repris des études pour passer d'un bac plus 3 à un bac plus 5 pour avoir une meilleure situation professionnelle. Du coup, elle s'est pété le dos aussi à un moment, donc elle était souvent alitée, elle était un peu en dépression, elle n'allait pas très bien. Elle était avec un mec qui, à l'époque, je pensais, la rendait vachement heureuse. Et sauf qu'en en parlant adulte, je me suis rendu compte que pas du tout. Et ce mec-là faisait semblant de m'aimer, et moi, je faisais semblant de l'aimer, parce qu'on pensait au bien de ma mère. Et en fait, il me détestait, il voulait pas de moi dans sa vie, il voulait ma mère, mais il voulait pas sa fille. Et moi, je voulais pas être un fardeau. Parce que tout ce que je...
Tu sentais qu'il te détestait ou pas ?
Ah bah, il me le disait clairement.
Ah bah, je croyais qu'il faisait semblant de t'aimer.
Ah mais pas quand elle, enfin, quand elle était là. Mais pas quand on était tous les deux. Ça lui arrivait plusieurs fois d'arriver dans une pièce, dans le salon, et de me dire, va dans ta chambre, j'ai pas envie d'être dans la même pièce que toi. C'était assez violent.
Ça, c'est un, ça, on dirait un scénario de,
ouais,
de roman, quoi.
Grave. Et dans la vraie vie, c'est pas marrant. Et en fait, j'ai toujours une relation extrêmement proche et extrêmement complice avec ma mère, et j'ai toujours voulu son bonheur. Et quand j'en parlais aux gens en disant « Ouais, mon beau-père, il est pas sympa avec moi », les gens, les adultes, se disaient même mécaniquement que c'est juste une enfant qui est jalouse parce qu'elle a plus sa mère pour elle toute seule. Alors qu'au contraire, je passais mon temps à vouloir marier ma mère quand elle était célibataire. Je voulais absolument qu'elle tombe amoureuse et qu'elle soit heureuse. Et le fait que je me prenne ça de la part des adultes de mon entourage, ça m'a vachement blessée. Parce que j'ai jamais été une gamine capricieuse, j'ai jamais été une gamine chiante. Je suis une fille unique et j'ai eu ma mère pour moi toute seule pendant longtemps. Donc oui, j'ai un côté égoïste et un peu nombriliste. Mais j'étais pas une... J'étais vraiment pas une capricieuse, quoi. Et du coup, quand je me suis confiée à ces adultes et que j'ai dit « ça se passe pas très bien avec ce mec-là » et qu'ils m'ont dit « mais c'est normal, c'est parce qu'il te vole ta maman », je me suis dit « niquez vos races, quoi ».
C'est un thème récurrent dans le livre, la culpabilité des enfants ou des ados qui se plaignent, ou qui disent, pas qui se plaignent, mais qui se disent, qui signalent que quelque chose d'anormal se produit,
ouais,
qu'on est méchant avec eux, ou qu'on les traite mal, et ce qu'on leur renvoie, c'est une culpabilité t'es sûr que t'as rien fait pour les déranger?
C'est ça.
Ou t'es sûr que c'est pas toi qui tripe et qu'en fait ton beau-père ou ton père se comporte très bien?
Mais c'est ça, parce qu'on a toujours le cliché des adolescents qui font des caprices, qui sont égoïstes, qui disent j'ai pas demandé à venir au monde et personne me comprend et machin. Et en fait, des ados qui essayent de communiquer, il y en a plein, et c'est difficile de communiquer quand on est ado parce qu'on sort à peine de l'enfance, on se retrouve dans des rapports avec des adultes qu'on n'a pas connus avant, on se retrouve face à des gens qui nous disent si tu vas te traiter comme un adulte, il faut se comporter comme un adulte, et qui derrière vont te dire écoute, t'es encore un enfant, t'es dans une tapis.
Puis surtout qu'ils vont souvent se comporter eux-mêmes comme des enfants.
Voilà. Donc c'est vraiment compliqué à gérer comme rapport, les rapports adultes-adolescents, et encore plus quand il y a un lien familial. Ça se voit aussi quand il y a des drames autrement plus graves que ça, à quel point les parents peuvent oublier le bien-être de leur enfant parce qu'ils sont dans le déni absolu de... Alors, s'il y a des attouchements, s'il y a une violence quelconque, physique ou vraiment très très dure, il y a tellement de cas de parents qui ne croient pas les enfants ou qui essayent de mettre le truc sous le tapis.
Pourquoi, à ton avis ?
C'est difficile, je ne suis pas psy, donc c'est chaud, mais je pense qu'il y a une grosse part de culpabilité d'un parent qui a failli à son enfant et qui n'a pas joué son rôle et qui n'assume pas du tout l'idée de ne pas avoir pu protéger son enfant. Il y a. L'idée que l'enfant puisse fabuler et que d'un coup il donne une image d'une personne à laquelle on tient et qu'on estime qui est monstrueuse et qu'on n'arrive pas à faire face à ça. J'imagine par exemple une mère qui apprend que son mari, donc le père de ses enfants, attouche un de ses enfants. Ça doit être extrêmement difficile pour une mère de se dire putain, l'homme que j'aime, avec qui j'ai passé toute ma vie, avec qui je dors la nuit, fait ça à notre enfant. Je n'ose pas imaginer le bordel que ça doit être pour tout le monde dans l'affaire. Bah, à part lui, parce que on ne va pas non plus avoir trop de peine pour ces gens-là. Mais c'est des sujets qui sont hyper compliqués. Et du coup, là, nous, de l'extérieur, quand on entend parler d'un drame comme ça, on sait qui est la mauvaise personne, on sait qui est la bonne personne. C'est évident, il y a un crime. Quand on est dans des schémas comme le mien, par exemple, qui sont plus subtils, c'est hyper difficile de légiférer là-dessus et de dire qui a tort, qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce que...
Est-ce que c'est pas 95% des situations, des choses, des zones grises?
Voilà.
Où en fait, personne ne fait rien de...
Exactement.
Et en fait, même, je trouve qu'il y a un parallèle avec aussi les... par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'expliquer l'échec de ma dernière relation amoureuse.
Ouais.
J'ai eu vraiment énormément de mal à comprendre et parce que c'est une zone grise. Et en fait, j'ai envie de... Il y a des jours où j'ai envie de blâmer l'autre personne à 100% et des jours où je me dis, mais en fait, c'est que de ma faute, je suis vraiment qu'une merde. Et en fait, je me rends compte que c'est un entre-deux impossible et je trouve que l'impossibilité, c'est très dur à accepter.
Ouais.
Vraiment, ça, pour moi, là, je pense que j'en sors, tu vois. Ça fait un moment quand même que c'est fini, mais j'en sors à peine parce que c'est cette impossibilité de mettre le blâme sur quelque chose ou quelqu'un de spécifique.
Ouais, c'est hyper dur.
Ouais.
Parce que on a tellement l'habitude d'avoir noir ou blanc, méchant.
Mais surtout que tout est comme ça.
Mais oui,
tu grandis avec des films, avec des bouquins.
Voilà,
avec...
c'est genre les gens se séparent parce que il y a eu tromperie, parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu violence, parce qu'il y a eu machin. Alors que même dans ces cas-là, dans la vraie vie, c'est pas aussi simple que ça. On le sait. C'est pas parce qu'il y a des violences domestiques qu'on se dit oh non, il m'a tapé, du coup je vais partir. Non, c'est hyper compliqué pour les victimes de partir, même de se rendre compte qu'elles sont victimes de quelque chose. Et ça, c'est des choses qu'on ne montre pas. C'est vraiment, on est dans des trucs hyper tranchés, hyper. Enfin, c'est des petits compartiments faciles, bien clos, bien limités et bien cloisonnés. Et la vraie vie, c'est pas ça. C'est qu'une énorme zone grise.
Ouais, il y a des choses qui les montrent. Récemment, je lisais. Le problème, c'est que quand je lis des trucs comme ça, après, ça me. Je lisais Vernon Subutex. Mm-hmm. Et pour le coup, je trouve que Virginie Despentes, elle est que dans les zones grises.
Ouais.
Et du coup, c'est très dur à lire, je trouve. J'adore, hein, vraiment, je les bouffe comme si c'était, si c'était Harry Potter. Mais c'est difficile, quoi. J'en sors un peu, j'ai envie d'aller faire un tour, marcher, m'asseoir, me dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine, tout ça. Parce que c'est quand même très noir comme portrait.
Mais c'est important d'avoir ces représentations des zones grises, justement. Et j'ai l'impression que c'est en train d'exploser dans plein de médias, ce qui est cool. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont fait ce constat. Et qu'on en parle vachement plus de manière officielle, on va dire, quand on parle par exemple de consentement. On a arrêté de dire que consentement c'est juste oui-non et que le viol c'était seulement tu te fais agresser par un inconnu dans une ruelle, alors que dans la grande majorité des cas c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça, on en parle enfin. On parle enfin de viol conjugal aussi, par exemple, qui est un truc dont on ne parlait pas du tout il y a quelques années, qui était même légal. Ça a été retiré du code pénal il n'y a pas très longtemps.
L'obligation de couche, enfin de partager le...
Ouais, c'est ça. C'est vraiment le devoir conjugal.
J'avais vu ça en droit civil.
Une catastrophe.
À l'époque.
Donc, on fait pas mal de progrès là-dessus. Mais du coup, oui, ces zones grises, elles sont hyper difficiles à gérer. Parce qu'en plus, il faut les gérer sur le coup, puis après, puis encore un peu après, puis encore un peu après. Puis toute ta vie, en fait, tu passes ton temps à refaire le bilan avec tout ce que tu apprends au fur et à mesure. Et tu reviens sans arrêt.
Tu retraites les problèmes.
Voilà. Et à chaque fois, tu dis... Ok, d'accord, ça y est, c'est bon, je l'ai. Et puis 5 ans plus tard, tu fais ah, mais non, ok, cette fois c'est bon, je l'ai. Et puis 5 ans plus tard, tu recommences. Et c'est sans cesse comme ça. Et du coup, il faut accepter, et je pense que c'est un truc qu'on devrait faire dès l'adolescence, accepter le fait de ne pas savoir, accepter le fait de ne pas comprendre, accepter le fait de ne pas avoir de réponse. Parce qu'il y a tellement de choses auxquelles on n'a pas de réponse, ou alors en tout cas pas de réponse définitive, et qu'il y a très peu de certitudes dans la vie. Je crois que la seule certitude qu'on ait finalement, c'est qu'un jour on va mourir. Le reste, on ne sait pas. Ça peut changer. Tout est en mouvement. Et à l'adolescence, c'est difficile parce qu'on est sûr de tout. Et dès qu'on découvre un truc, c'est genre, c'est bon, c'est moi qui l'ai découvert, je pose mon drapeau, personne avant moi n'a su ça, personne après moi, et je changerai jamais d'avis et je serai comme ça pour toujours. Et sauf que pas du tout, en fait.
C'est l'effritement des certitudes qui est compliqué.
Ouais.
Un peu comme quand, pour moi, quand tu réalises que tes parents ne sont pas des super-héros.
Oui.
Donc moi, moi, par exemple, mon père, c'était... Ça a toujours été mon héros. En plus, il n'était pas là, donc j'avais fantasmé une sorte de super-héros vraiment omnipotent, tu vois.
Ouais.
Puis au bout d'un moment, j'ai capté que mon père avait ses défauts, qu'il avait des trucs qu'il avait mal fait, etc. Et ça, ça a été assez difficile aussi.
Ouais.
Parce que je me suis dit, ah ouais, un naze, en fait.
Ouais. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une mère à qui j'ai pu parler de ça, justement, parce que j'ai idolâtré ma mère toute ma vie. Et un jour, je suis passée de l'autre côté, j'ai idolâtré mon père, et comme ils étaient séparés et que mon père n'aimait...
Pourquoi t'es passée de l'autre côté ?
Je vais t'expliquer.
Okay.
En fait, mon père et ma mère se sont séparés parce qu'ils étaient vraiment, vraiment, vraiment pas faits pour être ensemble, c'était le jour et la nuit, donc c'est très bien qu'ils se soient séparés. Et mon père avait beaucoup d'animosité envers ma mère, et il m'en mettait plein la gueule. Ma mère ne parlait jamais en mal de mon père, ou alors de façon très factuelle sur « là-dessus, ton père, il est pas très bon, machin », mais jamais avec un jugement moral, alors que mon père passait son temps à détruire ma mère. Et sauf quand
tu faisais le pont entre les deux.
Voilà. Et du coup,
tu connais ça.
Exactement. Et du coup, je pouvais pas être sur le même plateau, on va dire, pour les deux en même temps. Et quand j'ai arrêté d'idolâtrer ma mère, c'est parce que j'ai idolâtré mon père. Et du coup, comme j'idolâtrais mon père, ma mère est devenue une personne que je méprisais. C'est même pas, je suis passée de ah non c'est bon, elle est humaine. C'est juste, je me souviens avoir dit la phrase, je buvais un café avec une copine en fumant des clopes et je dis non, de toute façon ma mère, j'ai aucun respect pour elle quoi. Et ça me hante aujourd'hui de savoir que j'ai pu dire ça, et en même temps c'est normal, ça fait partie du développement. Et aujourd'hui je peux en parler avec ma mère et elle me dit bah oui, mais encore heureux que t'aies passé par cette période là, c'est normal et c'est sain, et je comprends et je ne te juge pas du tout. Et après, on a pu reconstruire des liens d'adulte à adulte, et c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Donc, il y a juste eu cette période où vraiment j'ai méprisé ma mère. Ça n'a pas duré très longtemps parce que il fallait que j'idolâtre mon père à la place, et que aimer ma mère, c'était trahir mon père dans un truc vraiment métaphysique.
En fait, on se retrouve. Je pense qu'on se retrouve embarqué dans les combats de nos parents. Tu
bah
sais.
Oui, évidemment.
Et ça, c'est moi, je me suis retrouvé à 100% là-dedans, ouais. Tu vois. Ça aussi, c'est difficile de s'en détacher complètement.
Bah ouais. Moi, après, je sais que j'ai eu énormément de chance avec ma mère qui, justement, comme je le disais tout à l'heure, a toujours eu cette approche de moi, tout ce qui m'importe dans la vie, c'est que tu sois heureuse. Donc, elle m'a frustrée par moments parce que moi, je partais en vrille et je disais, ah, je veux faire ça, je veux faire comme ça. Et elle me disait, wow, de redescendre sur terre, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est frustrant. Mais ça n'a jamais été pour me freiner. Elle m'a jamais empêchée de faire ce que j'avais envie de faire. Quand elle a vu que je commençais à mener une vie de saltimbanque et que financièrement c'est compliqué et tout ça, elle m'a dit c'est pas grave, fais-le du moment que t'es heureuse. C'est un investissement sur le long terme. Quand je me suis retrouvée dans la merde financièrement l'année dernière, elle m'a aidée alors qu'elle n'est pas richissime, loin de là. Mais parce qu'elle m'a dit je fais du mécénat en fait, parce que je sais que un, c'est pour ton bonheur, deux, tu travailles et t'es vraiment en action et tu fais des choses pour ta carrière et t'as besoin d'aide, et moi je suis ta mère, c'est mon rôle, donc je vais t'aider. Et elle a toujours eu vraiment ce réflexe de ok, ça me fait flipper parce que tu te lances dans un truc où vraiment c'est pas hyper stable et ça peut se casser la gueule d'un moment à l'autre, mais est-ce que t'es heureuse? Oui. Et ok, vas-y, viens, on y va et je t'accompagne.
Et pourtant au moment où les choses allaient pas, tu lui as pas parlé,
non,
quoi.
Non, j'ai pas réussi à cette époque-là. C'est vraiment un gouffre dans notre relation.
Tu penses que ça aurait tout changé si t'avais...
Ouais. Enfin, tout, je sais pas.
Parce que t'aurais quand même continué à subir probablement...
Elle aurait peut-être essayé de me changer de collège, mais va savoir si ça aurait changé quelque chose. Tu vois, à partir du moment où t'as accepté le statut de victime...
Non, puis il y a une vraie... Quand je parlais des défaillances des adultes, dans ton bouquin, il y a même plusieurs passages dans ton chapitre où tu parles
de enseignant.
Ouais, de violence, ouais. Que tu subis en classe. Je sais plus quelle histoire tu racontes.
Oui, le prof d'histoire qui m'a laissé me faire déshabiller au fond de la classe, et la prof de maths qui me laissait chialer au tableau et me pissait à moitié dessus. Non, j'ai été vraiment trahi par tout le monde dans ma vie à cette époque-là, par tous les adultes, par tous les enfants. Tout le monde m'a laissé tomber en fait. Et la seule personne qui aurait pu m'aider, c'était ma mère. Et c'est moi qui me suis effacée parce que je pensais que c'était que je pouvais y survivre, c'était pas grave, et que le plus important c'était son bonheur à elle. Et c'est vraiment un trou dans notre relation qu'on a. On se l'explique de façon très théorique et très, enfin, dans les faits, mais émotionnellement on a vachement de mal à se l'expliquer parce que ça ne nous ressemble pas du tout. Ça a été le seul moment de notre vie où notre relation a été comme ça. Elle l'a plus jamais été après. Elle l'était pas du tout avant. J'ai toujours tout dit à ma mère, sans aucun tabou, sans aucun problème. Et inversement, elle m'a toujours écoutée, elle m'a toujours encouragée, elle a toujours été là. Et là, il y a eu un vide qui s'est créé pour différentes raisons, comme j'expliquais tout à l'heure. Le fait que moi, je mente, le fait qu'elle soit dans une période de transition, etc. Et en vrai, je ne sais pas du tout ce que ça aurait changé si je lui avais parlé à ce moment-là. Parce que, de toute façon, j'ai vite abandonné, en fait. J'ai vite lâché l'affaire et j'ai vite cru ce qu'on me disait parce que c'était tellement unanime.
Que t'étais nulle.
Que j'étais nulle et que je valais rien et que ma présence était gênante plus qu'autre chose. Enfin, quand je suis à la maison en train de lire un boulet bill dans le canapé et que t'as ton beau-père qui débarque en disant va dans ta chambre, j'ai pas envie d'être dans la même pièce que toi, tu te dis qu'est-ce que je fous là en fait ? Et la première fois que j'ai eu sincèrement envie de mourir, j'avais 12 ans. Ce qui est absurde. On devrait pas avoir envie de crever à 12 ans. Déjà, on ne devrait pas avoir envie de crever tout court, mais ça peut arriver, c'est pas grave, on peut s'en remettre, j'en suis la preuve. Mais à 12 piges, se dire sincèrement, en fait, le monde serait mieux sans moi et je serais mieux sans le monde. Et je me souviens, c'est toujours un peu dans l'excès, hein, moi j'aime bien la théâtralité. Il y avait une machette, mais genre, tu sais, les trucs de jungle, la Indiana Jones, là, un coupe-coupe. Dans la cuisine, qui appartenait à mon beau-père, qui avait récupéré ça, je sais pas où.
Il y a toujours un truc comme ça qui traîne chez toi.
Voilà. Et j'étais seule à la maison, et je l'ai attrapé, et j'ai pointé la lame sur mon ventre, et j'ai commencé à appuyer en me disant, allez, tu prends une grande inspiration, et cette fois, c'est terminé. Et j'étais prête à appuyer, et là, j'entends la porte d'entrée qui s'ouvre et ma mère et mon beau-père qui rentrent et qui disent « Ouais, t'as vu les aubergines, elles étaient en réduction, c'était trop cool, machin, nanana. » J'ai reposé la machette, je me suis assise dans le canapé, j'ai rouvert ma BD comme si de rien n'était, je les ai accueillis avec un gros sourire, comme si j'avais pas vraiment pensé à me suicider 2 minutes plus tôt. Mmh. Enfin, j'étais vraiment seule, je me suis isolée complètement.
Et c'est ça qui a créé, dans le livre, tu dis « Méfie-toi de la colère ».
Ouais.
C'est ça qui a créé la colère.
C'est ces années-là, enfin 4 piges et plus, parce que ça s'est pas vraiment arrangé au lycée, même si c'était différent. Mais 4 piges et plus de ça, c'est comment ne pas avoir les boules, quoi. Comment ne pas être en colère, comment ne pas avoir la rage contre tous ces gens qui ont laissé faire et qui ont fait. Parce que contre les ados, à la limite, c'est pas parce que c'est des ados qu'il faut les dédouaner et dire « Ah, mais non, mais c'est des enfants, les enfants sont cruels ». Non, on sait très bien ce qu'on fait à cette époque-là, faut arrêter de... Hein. Ça, c'est un truc qui me rend ouf et c'est un truc que ma psy m'a appris à dire aussi parce que j'avais trop tendance à dire encore eux ça va parce que c'était des enfants et à chaque fois elle me reprend, elle me dit non 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 non, les enfants sont pas si cons, les enfants sont pas si inconscients de ce qu'ils font, surtout quand ils ont 12-13 ans et donc je suis en colère contre eux évidemment, mais encore plus contre les adultes qui nous encadraient, qui étaient censés me protéger et qui n'ont rien fait et qui ont même parfois encouragé ce qui se passait, comme ces surveillants qui se marraient en disant allez c'est bon c'est terminé, laissez-la tranquille, après m'avoir vu me faire péter la gueule pendant 5 minutes, quoi. Genre, ils les ont laissés se défouler en disant ah, allez, c'est les enfants, ils se bagarrent, c'est normal. Et puis au bout d'un moment, ça devenait vraiment trop violent. Donc là, ils se disaient oh, on va peut-être intervenir. Mais en attendant, moi, c'est bon, c'était mort. J'avais pris une baigne, c'était déjà trop, mais j'en avais pris 15, quoi. Et le nombre de fois où j'essaye de dénoncer en disant mais vous voyez bien qu'il s'est passé un truc devant vos yeux et que les profs me disaient oh, mais ça va, c'est bon, on va pas en faire tout un plat. Sérieux. Et même sans ça, et ça m'est arrivé en cours de natation. Cours de PS, je fais une crise de tétanie dans l'eau, je commence à me noyer.
C'est quoi une crise de tétanie ?
C'est quand t'as tes muscles qui se tétanisent et qui se bloquent, et du coup
comme
tu deviens tout rigide.
Un peu,
voilà, ouais. C'est une espèce de crampe généralisée. Et du coup, bah, tu peux pas bouger, quoi. Tu t'as plus le contrôle de tes muscles, et quand t'es dans l'eau, c'est un peu con parce que t'en as besoin. Et j'ai commencé à me noyer, et le prof, il m'a regardé en disant « Arrête ton cinéma, t'as où, c'est bon ». Et il a fallu que ce soit le maître nageur de la piscine qui débarque avec sa perche pour me sortir, pour qu'enfin je sorte de l'eau, parce que le prof était persuadé que je faisais semblant. Ça aussi, le truc des enfants qui font semblant, ça me rend ouf. Bien sûr qu'il y a des enfants qui font semblant, mais au bout d'un moment, quand je suis en train de faire gloup-gloup et de te regarder livide avec les lèvres violettes, peut-être qu'il faut que tu te bouges le cul. Hein. Mmh. Donc,
et en fait,
ça m'énerve.
Ouais, parce que j'aime bien. Parce que le premier chapitre, vraiment,
ouais, c'est vraiment
page numéro 1 du livre, marqué « Méfie-toi de la colère ».
Non, mais quand je te dis que c'est vraiment un problème sur lequel je bosse en ce moment, c'est ouf à quel point. Donc, je suis en train de serrer ton micro, là.
Donc tu n'es pas encore... Fin...
Ah non, c'est pas fini. Ça vient, en fait, ça fait que commencer. C'est-à-dire que j'ai conscience de cette colère depuis longtemps, mais j'ai conscience de ses ravages et de son inutilité aujourd'hui, depuis peu de temps, justement, en thérapie. Où ma psy m'a dit, en fait, là, elle vous a sauvé la vie, cette colère, effectivement, mais là, elle n'a plus de raison d'être depuis un moment, en fait, et elle me freine plus qu'autre chose, donc il faut que je m'en débarrasse, mais c'est chaud.
Dans quelle mesure elle a pu te freiner ?
Bah, parce que tous mes rapports sociaux se font dans le conflit. Enfin, pas une fois que j'ai une amitié qui est établie ou une relation amoureuse, je suis pas... Au contraire, je suis quand même assez cool, mais quand je rencontre quelqu'un, mon premier réflexe, c'est de jouer à la bagarre. Je vais être dans l'agressivité, donc je vais pas mettre des patates dans l'épaule. Ça, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Tu sais, les gens chiants qui te poussent et qui t'insultent et qui te tripotent juste pour t'embêter parce que ah, c'est marrant, tu réagis. Je hais ça aujourd'hui, mais parce que j'ai été ça, mais il y a longtemps. Mais maintenant, ça va être plus verbal. Ça va être, je vais te toiser, puis je vais te faire 2-3 vannes et parce que je ne sais pas comment faire autrement. Donc j'apprends petit à petit. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de faire un compliment. Quand je rencontre une personne, si je trouve qu'elle a des beaux yeux ou des belles chaussures ou qu'elle sent bon, bah, ça va être la première chose que je vais dire. Je vais dire « Oh, enchantée, putain, tu sens trop bon !» Mais c'est sincère, hein, j'invente jamais de compliments, parce que faut pas déconner non plus. Si j'en ai pas, bah, j'en fais pas. Il y a des gens comme ça, tu peux pas les complimenter. Et j'essaye d'inverser la tendance et de commencer sur une note positive, parce que sinon, je suis... Enfin, mon mec peut en témoigner, c'est le dernier à avoir vraiment subi cette partie de moi, mais en relation amoureuse, j'ai toujours été comme ça au début. Il faut vraiment abattre mes murailles, mais pendant longtemps. Il faut travailler à la pioche pour qu'enfin je sois gentille, pas dans le sens où je suis. Enfin, je suis pas méchante, c'est-à-dire que je tape pas, j'insulte pas, je dis pas de gros mots, je suis pas un tyran, mais.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Je vais être dans... Comme j'ai un petit côté lascar, j'ai un petit côté racaille, bah je vais être dans ce genre de rapport-là. Et je vais te renvoyer sans arrêt, pour voir si vraiment tu vas persévérer, si vraiment tu mérites que je te laisse entrer. Il faut que tu me prouves que tu es
digne de
confiance.
Et donc il y a des gens qui vont abandonner.
Bien sûr.
Tu dirais que ça t'a empêché d'avoir... Enfin, est-ce que ça t'a bloqué des opportunités ou que ça t'a...
Non, je pense pas. Je pense pas parce que de toute façon, je suis quelqu'un d'hyper difficile dans mes relations proches. Je laisse pas rentrer les gens de n'importe comment, mais là c'est pas juste pour me, enfin c'est partie d'une envie de me protéger évidemment, mais aussi parce que je suis exigeante, surtout depuis que, enfin je vis à Paris, j'ai une carrière qui fait que je rencontre énormément de gens tout le temps, qui eux-mêmes connaissent plein de gens, enfin on est tout le temps dans un flot de gens non-stop, donc t'es obligé de faire le tri au bout d'un moment, de faire attention à qui tu laisses rentrer, surtout quand t'as une personnalité un peu publique, parce que même à mon échelle, il y a des gens qui cherchent à s'imposer dans ta vie.
S'imposer dans quel sens?
Bah, ils vont te trouver cool, ils trouvent ton travail cool et du coup ils estiment que ça leur donne le droit d'être ton pote.
Ah oui, tu vois, je commence à reconnaître un peu.
Voilà, et c'est pas méchant du tout et c'est pas mal intentionné et j'ai rien contre le fait d'avoir des rapports cordiaux et que au bout d'un moment tu croises 3-4 fois la même personne, tu la reconnais et c'est cool et on s'entend bien, mais calmos quoi, commence pas à me faire des sous-entendus sur ma relation, sur des trucs intimes que je t'ai pas dit directement à toi. À rentrer dans mes DM en me disant alors comme ça t'aimes bien ça, si tu veux on peut aller boire, enfin genre ils vont me voir boire du cidre, alors, moi j'en ai su, je connais une super adresse pour aller boire du cidre, ça te dirait qu'on y aille? On ne se connaît pas, hein? On ne se connaît pas, stop. Si j'avais envie de rencontrer des gens comme ça je serais sur un site de rencontre, je suis sur aucun site de rencontre, c'est pas pour rien. Et le nombre de fois où j'ai entendu des gens me dire aussi, ah ouais, j'ai rencontré machin, elle m'a dit qu'elle était que vous étiez amis. Tu veux dire machin, la personne que j'ai vue deux fois dans ma vie en soirée à qui j'ai vaguement fait la bise. Et les gens s'utilisent les uns les autres pour montrer patte blanche dans ce genre de milieu en fait. Parce que quand t'arrives et que tu connais personne, il faut que tu justifies ta présence en disant je connais machin, machin, machin et machin. Et du coup, si la personne en face a confiance en ces gens-là, elle va t'accepter plus facilement.
On est toujours sur la problématique de vouloir être accepté.
Voilà. Et je comprends cette démarche. Je l'ai utilisée à une échelle un peu différente parce que moi, je me sens jamais légitime et je suis persuadée que tout le monde me déteste. Donc du coup, je n'arrive pas en disant hey, « Eh, on est trop potes !» Parce que non, je suis sûre que si j'arrive, juste je souris, ils vont me dire « Ah !» Comme si j'étais une espèce de bout de merde sur leurs chaussures. Ça va mieux, je travaille là-dessus. J'ai des très très gros problèmes d'estime de moi. C'est pour ça aussi que j'ai ce personnage. Jack Parker, c'est mon alter ego, c'est une version un peu exagérée de moi-même, mais ça reste moi-même. Et que j'ai un peu ce côté hautain et que je fais des blagues sur je suis la reine du monde et ce genre de trucs. Parce que j'ai besoin de niveler par le haut. Parce qu'en réalité, ce que je pense, c'est l'inverse total. Et je suis obligée de. Ça a été une façon pour moi de mieux vivre ça, de me mettre dans un personnage de quelqu'un qui a super confiance. Parce que c'est la fameuse expression anglaise de « fake it till you make it ». Tu fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Et ça marche très bien.
Tu trouves que ça fonctionne ?
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, j'ai fait semblant d'avoir confiance en moi pendant des années dans mes rapports sociaux. Et aujourd'hui, j'arrive dans une soirée. Bah, à l'intérieur, je ne suis pas forcément à l'aise. Mais ça ne se voit pas, d'une. Et de deux, j'arrive à créer des liens et à échanger avec des gens que je ne connais pas. Alors qu'avant, c'était le truc le plus paralysant du monde, quoi. Mais parce que j'ai vécu tout ça, et que quand t'as vécu tout ça, déjà quand tu l'as pas vécu, c'est difficile, mais en plus quand t'as vécu tout ça, bah, c'est hyper compliqué de se dire « je suis légitime, j'ai ma place dans le monde et je ne suis pas une sous-merde ». Des choses simples, hein, mais pas faciles à intégrer.
Du coup, là, pour la question de la colère, tu disais que c'est quoi les trucs que tu as mis en place ?
Je me perds, pardon.
Non, t'inquiète pas.
Les trucs que j'ai mis en place.
Mais ça m'intéresse parce que justement, j'allais te demander quand tu dis méfie-toi de la colère, où t'en étais par rapport à la colère.
J'en suis au début.
Ouais, mais c'est intéressant. Non, mais de toute façon, pense que souvent, c'est un truc que je dis pas mal, mais on croit trop que les gens écrivent des livres parce qu'ils sont experts d'un truc, alors qu'en fait, tu écris un livre justement pour pouvoir y réfléchir.
Exactement.
Et d'ailleurs, t'as eu une autre question, mais. T'as eu du mal à convaincre les gens de participer ?
Pas du tout.
Parce qu'on a le sentiment qu'en fait, tout le monde en a gros sur le cœur dans ce
bouquin. Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et ça c'est un peu ressenti pour certains, à qui j'ai dit « ça te dit d'écrire une lettre à l'ado que t'as été ?» qui se disent « bah ouais, facile, ça ressemble vraiment à une rédaction de base qu'on peut te demander en cours. » Enfin, c'est un exercice qui est... Pardon, je rote. C'est un exercice qui est quand même assez courant, qui n'est pas très original. Et du coup, les gens se sont lancés en disant « bah ouais, facile, avec plaisir, c'est cool. » Et il y en a qui en ont chié et qui ont dû s'arrêter en plein milieu et qui m'ont dit « alors attends, là, il faut que je fasse une pause parce que je pleure trop » ou « alors non, je galère trop sur la dernière phrase, j'arrive pas à le finir ». Et je pense qu'ils ont tous sous-estimé, mais moi la première, hein, on a tous sous-estimé la difficulté de l'exercice parce que ça fait... Il y en a un qui m'a dit « c'est chaud, ça fait remonter vraiment beaucoup de trucs » parce que vraiment, d'un coup, on s'est replongé dans tout ça sans l'avoir... Enfin, on l'a jamais oublié ce qui s'est passé, mais on n'y était plus. Et là, d'un coup, on y était à nouveau et pas simple. Mais
ouais, parce qu'en plus, moi, quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, tiens, c'est marrant et tout, je vais essayer d'en écrire une voilà. Pour moi.
Moi, c'est ce que j'espère justement avoir comme résultat, c'est que les gens se disent, et moi, qu'est-ce que je dirais ?
Et d'ailleurs, j'ai commencé à l'écrire. En fait, j'avais plein d'idées. Et puis en plus, c'est un truc que je fais quand même assez souvent, penser à des trucs un peu vieux et hardcore pour trouver de l'inspiration pour écrire.
Mais... Alors ça, pardon, parenthèse, mais c'est un truc sur lequel il faut qu'on travaille aussi, le mythe de l'artiste qui doit souffrir pour créer, c'est faux.
Comment
et
ça ?
Et c'est difficile à accepter.
En fait, moi, j'aimerais bien, en ce moment, je vais te dire quelle est ma... Comme je te disais, vraiment, je veux pas me poser la question de est-ce que ça intéresse les gens ce qu'on dit. Donc,
oui, vas-y.
Moi, en ce moment, je suis dans une vraie problématique de... En fait, il y a vraiment des choses qu'il faut que je pose, là.
Ouais.
Tu vois ? C'est des histoires de ma vie, en fait.
Ouais.
Et je suis dans un vrai questionnement de est-ce que je sors un bouquin où je raconte tout ?
Ouais.
Et après, j'ai plus d'amis, plus de famille. Je peux partir habiter. Enfin, je serai tout seul, quoi. Clairement, tout le monde va me détester. Parce que si tu dis la vérité, bah, je pense que forcément, tu dévoiles, quoi.
Ouais, mais.
Ou est-ce que j'écris.
Tu peux romancer, hein.
Bah, est-ce que j'écris un roman? Alors, parce que je lisais, je sais plus quel bouquin, là, La carte et le territoire, je crois. Je me disais, putain, c'est bien et tout. Il a dû mettre plein de trucs de sa vie, mais on s'en rend pas compte et tout. Ou est-ce que j'écris un roman mais parce qu'en fait tu dis l'artiste doit pas souffrir, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des trucs qu'il faut vraiment que je sorte.
Ah oui, non, mais ça veut pas dire que
c'est passer à autre chose, tu
vois. Non, je dis pas qu'il faut plus jamais souffrir, c'est juste qu'on a trop tendance à penser que ça ne fonctionne que comme ça, que on ne peut créer que dans la souffrance, que dans le viscéral, que dans le noir et la mélasse et
Ah ouais, non, ça je crois pas, justement. Moi j'essaye vraiment d'avoir un de plus en plus de créer un environnement sain de vie et de créer dans un endroit un peu cool, tu vois.
Ouais.
Bon.
Mais ça c'est cool, mais parce que moi c'est pendant des années j'étais persuadée qu'il fallait que je sois en souffrance, et quand j'ai commencé à être heureuse, je me suis dit bah ça y est, c'est fini, je suis plus artiste. Comment tu veux que j'écrive maintenant que je vais bien ? Ça n'existe pas. Et c'est chaud.
Mais parce que c'est vrai pour certains. Je prends souvent l'exemple d'Eminem récemment, mais depuis sa vie ça va, il sort que des trucs nuls.
Alors après, je pense que Eminem c'est un mélange de ça et de on a grandi et on analyse plus ce qui se dit et on se dit eh ouais, bon, en fait.
Ouais, peut-être aussi. Ouais.
Mais il a fait le tour de la question et il s'est bâti sur ses discours de souffrance de j'ai été maltraité par ma mère et machin, je suis white trash de Détroit et machin.
Bah justement, mais une fois que tu poses ça...
Voilà, et maintenant, il n'est plus ça depuis tellement longtemps.
Bah
que,
ouais.
Qu'est-ce que tu dis ? Mais c'est le même problème avec les humoristes qui viennent de citer. Par exemple, Jamel Debbouze qui racontait sa vie à Trappes avant. Bah, maintenant, quand il te parle de ce genre de truc, tu dis, mec, ça fait 20 ans que tu vis à Saint-Germain-des-Prés et que t'es pété de thunes. Tu peux plus parler en tant que petit jeune des cités. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est plus. Il vient quand même de là, ça n'efface pas son passé. Mais il ne peut pas inventer de nouvelles anecdotes et de nouveaux trucs là-dessus.
Oui, mais ça, c'est intéressant, justement, comment tu t'enfermes pas dans un personnage. Tout à l'heure, tu disais...
C'est chaud.
Là, on fait des digressions, mais tant mieux, c'est bienvenue sur Nouvelle École. Tout à l'heure, tu disais, que tu as eu cette idée après avoir fini Le Grand Mystère des Règles.
Ouais.
Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire
Ah, mais oui, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je l'ai fait. Maintenant,
c'est fini.
Terminé, je n'y arriverai plus jamais. Mais j'en ai parlé très vite autour de moi et tout le monde m'a dit, des auteurs et mon éditeur aussi, ils m'ont dit, mais en fait, tous les écrivains pensent ça. Une fois qu'ils ont fini un livre, ils se disent c'est le dernier, à chaque fois.
Parce que par exemple, moi j'ai l'impression que si j'écrivais un bouquin où je raconte, enfin, qui un peu me permette de sortir tous mes trucs d'enfance, etc., je vois vraiment pas ce que j'aurais à dire ensuite.
Oui, mais justement, tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas sorti en fait. Et c'est ça dont on se rend pas compte, c'est que on a l'impression que si on se débarrasse d'un truc, derrière c'est le vide, alors qu'en vrai derrière c'est autre chose. Et c'est mon problème justement avec cette histoire de colère, c'est que je ne sais pas qui je suis sans cette colère. Et je sais que je suis quelqu'un. Je sais qu'il y a quelque chose derrière, que je ne suis pas que ça, et que si je m'en débarrasse, je ne vais pas disparaître et je ne vais pas devenir quelqu'un de nul. Au contraire, je vais peut-être même devenir quelqu'un d'encore mieux. Du moins, c'est un peu l'espoir que j'ai.
C'est ce que j'espère.
C'est le but. Mais j'ai quand même ce réflexe con de... Je sais, ça me fait tellement peur. Et pourtant, vraiment, j'en ai fait des trucs dans ma vie de peur de l'échec et de je ne sais pas ce qu'il y a derrière et peut-être que je vais me casser la gueule, mais j'y vais quand même.
Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs que tu t'es lancé dans le grand mystère des règles ? Tu disais que pendant des années, tu n'avais rien fait, que tu attendais qu'on vienne te chercher, que tu n'osais pas.
C'est parce que j'ai lancé ce blog. J'en ai eu marre.
Donc c'est fait petit à petit, quoi. D'abord, il y a eu le blog, ensuite.
En fait, le blog, d'abord, je voulais écrire le livre. Ensuite, je me suis dit, je vais démarcher les maisons d'édition avec ça en n'ayant rien fait avant. Ça ne va jamais marcher, c'est mort. Donc, je vais lancer un blog. De toute façon, le sujet commençait vraiment à faire partie de l'actualité de plus en plus à ce moment-là. Et je me suis dit, si je vais louper le créneau, si je ne me place pas dessus maintenant. Donc, j'ai lancé ce blog en me disant, advienne que pourra. Et un an après, j'avais ce mail de Flammarion. Et c'est là que je me suis dit, eh ben putain, plus jamais je me retiens de faire un truc. Plus jamais je me dis, si je fais tel média, du coup, je pourrais pas le faire sous tel format, parce que la preuve, on peut passer de l'un à l'autre. Je suis passée du blog au livre, là, je vais passer de la newsletter au livre. Va savoir si je vais pas passer d'un livre à un podcast à un moment, ou d'un podcast à un film, j'en sais rien de quoi va être faite ma carrière, et tant mieux.
Tu t'étais beaucoup empêché pendant ça a duré combien de temps, la période où t'as pas osé faire des trucs?
Longtemps, parce que je faisais quand même des trucs professionnellement, j'étais rédactrice web, donc je continuais à bosser, mais c'était pas des projets de passion du tout. Même si j'aimais bien ce que je faisais, c'était pas satisfaisant tous les jours, et surtout j'ai pas une façon de travailler qui est quotidienne et mécanique et routinière. Et j'ai pas un puits indéfini d'idées et de motivation. Et il y a des jours où vraiment j'y arrive pas. Et quand t'es dans une entreprise et qu'il faut que tu chies de la copie tous les jours, bah moi je décrépis complètement. Mais bon, comme on m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire pour être un membre constructif de la société, je l'ai fait plusieurs fois, jusqu'à la dernière fois où je me suis dit, en fait, plus jamais, parce que vraiment, derrière, il faut réparer les dégâts et c'est chaud.
C'est quoi les dégâts ? Les dégâts de dans une entreprise ? Ah, tu tombes
en... Ouais. Je retombe en dépression systématiquement. C'est vraiment... Je suis épuisée physiquement, moralement, j'ai plus d'idées, je suis persuadée que j'aurai plus jamais une seule idée cool de ma vie, je me sens vide.
C'est l'environnement de travail qui te fait
Vraiment, le fait de travailler de 9h à 18h dans une boîte, je peux plus. Peut-être qu'un jour je repourrais, parce que, encore une fois, rien n'est jamais définitif, on ne sait pas. Je pense pas, mais va savoir, la vie est pleine de surprises. Mais c'est vrai que là, rien que de visualiser un open space, j'ai l'odeur, j'ai la vision des néons, je suis de la clim, je suis pas bien. Je fais une crise d'angoisse. Je déteste. Ça me draine complètement, quoi. J'y arrive pas. Il y a des gens qui s'épanouissent vachement là-dedans, et je pense que c'est vraiment une différence de profil. Et moi, ça ne correspond pas à mon profil, tout simplement. Et pendant longtemps, je me suis forcée à le faire, parce que j'estimais que ne pas le faire, c'était un caprice.
Mais ça, c'est un gros thème du bouquin. C'est quand on s'est essayé de rentrer dans le moule, en fait.
Ouais.
Se dire, ça donc qui revient, je reviens sur le livre, hein, qui revient dans beaucoup, beaucoup de lettres écrites par les auteurs, donc, qui est, arrête d'essayer de rentrer dans le moule à tout prix, quoi.
Ouais.
Arrête d'essayer de te conformer à ce que tu crois qu'on veut que tu sois.
Ouais.
D'ailleurs, et on remarque d'ailleurs que pour la grande majorité d'entre vous, c'est justement les choses pour lesquelles on vous a un peu persécuté.
Bah ouais.
Collégiens et ados qui font ce que maintenant vous
Exactement.
Avez du succès.
Et c'est un cercle vicieux parce que c'est justement le discours, la conclusion à laquelle on arrive à peu près tous, qui est si j'avais pas subi tout ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, tu vois, tu te dis, ok, j'en ai chié, mais ça en valait la peine. Et en même temps, je trouve que c'est un point de vue un peu toxique parce que du coup, ça justifie une souffrance qui n'a pas lieu d'exister. Et je pense qu'on peut tout à fait s'épanouir et développer plein de choses cool sans avoir à en chier à ce point-là.
Parce qu'on glorifie l'artiste maudit.
Voilà.
Mais je sais pas trop quoi en penser. Je t'avais entendu dans le Floodcast récemment parler de Chester
Bennington
ouais. En disant que c'était... Donc c'est le chanteur de Linkin Park qui s'est suicidé.
Ouais.
Et j'avais été vachement d'accord avec toi. Tu disais que c'était... déprimant de voir un type comme ça auquel on s'était beaucoup identifié
ouais.
Tout réussir C'est-à-dire réussir à devenir une méga star, à vendre plein d'albums, à avoir un groupe de rock, faire des trucs trop bien, avoir une famille.
Ouais.
Et finir quand même à, je sais pas quel âge il avait, mais 45, je sais pas.
Moins que ça.
40
crois,
ans.
Ouais.
Par se suicider, quoi.
Bah ouais.
Et tu te dis juste.
À quoi bon ?
Ouais. Parce que tu te dis bon.
Tu dis bah oui, c'est ce que je disais dans le podcast, c'est si lui il a pas réussi, pourquoi moi j'y arriverais ? Alors j'en ai parlé avec ma psy qui m'a dit, faut pas oublier que c'est dans des environnements spécifiques aussi. Être une méga star, c'est pas la vie de tous les jours, c'est pas notre quotidien. Tout est extrême. Toutes les émotions sont extrêmes, toutes les expériences sont extrêmes. On est vraiment dans un environnement de vie qui n'est pas le même que le nôtre, c'est pas la même sphère. Et du coup, les choses ne se vivent pas avec la même intensité. Je pense que ça joue beaucoup. C'est pas systématique, mais je pense, effectivement, ça faisait sens en tout cas quand elle me l'a dit comme ça. Je me suis dit, oui, effectivement, moi je ne vis pas à Hollywood à faire des tournées devant des milliers de personnes.
Ouais, mais moi je me pose souvent cette question, est-ce que la tranquillité. Souvent, quand on va pas bien, on a l'impression qu'on recherche la tranquillité, et quand tu lis la plupart des gens qui ont l'air heureux, en fait, ils sont tranquilles.
Ouais.
Tu vois. Et en même temps, plus je tends vers la tranquillité, ce que je fais pas mal ces temps-ci, et plus j'ai une sorte de peur sourde de mais en fait, ma vie, ça va être de la grosse merde.
Oui, c'est la fameuse FOMO, la fear of missing
voilà,
out.
Voilà, si se passe toujours la même chose, ouais. Tu sais, et que juste je me lève le matin, je vais écrire, après je vais kiffer un peu ma vie, etc. Et en même temps, quand t'es dans des trucs extrêmes, tu te dis, mais en fait, c'est ça que je veux. C'est donc.
Mais je pense que c'est un équilibre à trouver qui est propre à chaque personne. Il y a des gens qui sont plus épanouis quand leur vie bouge beaucoup. Il y en a qui le font uniquement pour combler un vide parce qu'ils ont très peur d'être seuls et justement de rater quelque chose. Il y en a qui sont voilà, il y en a qui sont très isolés et qui le vivent super bien, et d'autres qui le font parce qu'ils ont peur d'aller dans le monde et de vivre des expériences parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut donner. Enfin, il y a plein de profils différents et je pense que c'est important de s'écouter et parfois d'arrêter de s'écouter aussi, parce que moi je sais que je me suis beaucoup trop écoutée par rapport à ça. Je suis plutôt du genre
trop d'introspection, tu veux dire ?
Ouais. Et je me suis beaucoup protégée parce que quand j'étais au fin fond de ma dépression, effectivement, je n'étais pas capable d'avoir des interactions sociales, je n'étais pas capable d'aller à des soirées, d'aller à des rencontres, à me retrouver avec plein de gens qui me disent « Alors, et toi, quoi de neuf ? Moi, je fais ça, ça, ça et ça. » Et moi, je disais « Moi, j'ai envie de mourir. » Et tu rentres chez toi et tu te dis « Bah, vraiment, je suis la dernière des merdes. » Donc, dans ces moments-là, j'avais besoin d'être seule. Et ça a duré tellement longtemps qu'aujourd'hui, j'ai encore du mal à faire la différence entre mon besoin d'être seule et mon envie d'être seule.
C'est quoi la différence ?
La différence, c'est que si j'ai envie d'être seule, c'est parce que vraiment, ça va me rendre heureuse, c'est cool, c'est mon choix. Si j'ai besoin d'être seule, c'est parce qu'il y a un truc qui me fait peur, il y a un truc qui me bloque. Alors parfois, il faut que j'écoute ce besoin, parce qu'effectivement, sinon je vais me confronter à quelque chose qui va être extrêmement désagréable. Mais la plupart du temps, c'est parce que j'ai la trouille. J'ai la trouille de sortir. Il y a des jours où j'ai encore peur, ne serait-ce que d'aller acheter des clopes. L'idée même de descendre de chez moi et de faire trois rues, c'est de l'angoisse absolue. Et là, je me dis, OK, ça, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de me protéger de ça. J'ai passé ce stade-là. Je sais très bien que ça va très bien se passer, qu'il ne va rien m'arriver. Je suis capable d'y survivre. J'ai des armes pour aujourd'hui. Mais j'ai encore ce réflexe de l'époque où je n'étais pas assez armée pour ça et où je me suis vraiment complètement retranchée sur moi-même. Et je suis là dans cette quête un peu de... Il faut que j'arrive à me bouger le cul et à savoir quand c'est important de le faire pour moi.
Comment tu sais quand est-ce que c'est important ?
Je sais pas encore. Je crois que j'arrive pas encore à identifier vraiment...
Parce que moi, je me dis souvent qu'en fait, quand j'ai peur, généralement, c'est que c'est important. Le problème, c'est que... Ça, c'est en théorie, je dis beaucoup ça. Si j'ai peur, c'est que c'est important,
ouais.
Tu vois. Après, le problème, c'est que quand arrive le moment où j'ai peur... Je dis ouais, non, mais j'ai peur, mais c'est parce que c'est pour autre chose. Tu
ouais.
vois. Et j'arrive pas toujours à m'appliquer mes propres règles.
Dur, hein.
c'est pour ça que j'écris des articles, je fais des podcasts.
Mais voilà, moi c'est pareil, quand mes potes me parlent de leurs problèmes, je suis la première à faire des monologues très longs et très chiants de je vais t'apprendre la vie, ma grande. Mais alors quand il s'agit d'appliquer mes propres règles à moi-même, je suis vraiment la dernière des connes. Mais faut que j'arrête de parler comme ça. Putain, ma psy, elle m'a dit d'arrêter. C'est dur. Tu vois à quel point c'est insidieux. Et c'est vraiment dans mon discours. On a fait ce constat avec elle il y a deux semaines, justement. Le champ lexical que j'utilise, c'est toujours un champ lexical de mort, d'échec. Par exemple, quand elle va me dire il faut transformer ou il faut changer quelque chose, moi, je vais dire ouais, il faut que je le tue. Je dis, mais non, c'est pas rien que ça. Tu vois, je suis dans une disposition de tout est fataliste, tout est sombre, tout est tranché, et c'est un champ lexical qui est négatif. Et surtout en français, tuer, ça a pas. Tu vois, en anglais, on utilise vachement kill pour
terminer un programme, par
voilà,
exemple.
Voilà, exactement. Alors qu'en français, tuer, c'est tuer. Quand on tue quelque chose, il y a vraiment une fin absolue.
Tu crois que c'est important, ça, de le champ lexical, les mots que tu utilises?
Bah ouais. C'est vraiment super important. Et depuis que j'en ai pris conscience, je me rends compte vraiment à quel point mon champ lexical est tout pourrave.
La dernière fois,
j'ai... Ah, putain.
Bref.
C'est sans fin.
Hier, on marchait avec un pote et je lui disais que je suis fatigué. En ce moment, parce qu'en ce moment, je suis fatigué, quoi. Je pense qu'il faut que je fasse un petit break.
Ouais.
Quoi. Et je disais, ouais, je suis fatigué. Puis, je sais pas, je le fais plus aussi bien. Là, faut vraiment que... Et puis, il me disait, ouais, mais aussi... si t'arrêtes pas de dire que t'es fatigué, tu vas être fatigué. Ouais. Et moi, ça m'a trop énervé. Ouais. Je me suis dit, ah, putain, mais j'en peux plus des gens qui disent ça.
Pareil.
Ça me fait penser aux gens quand j'allais pas bien qui me disaient, non, mais si t'arrêtes pas de dire que tu vas pas bien, tu vas pas aller bien. Et en même temps, dans un sens, il y a de la vérité aussi,
ouais,
là-dedans,
mais,
quoi.
Tu vois, c'est exactement ce que je te disais sur selon les profils, selon les périodes de ta vie, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas. Un dépressif, tu vas pas lui dire, mets-toi un coup de pied au cul, sors, ça va aller, remue-toi. C'est parce qu'il en est pas capable. C'est une maladie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quelqu'un qui va juste pas bien, effectivement, tu peux le pousser au cul. On peut se dire, allez, c'est pas grave, ça va passer, parce que c'est juste, t'as un petit coup de cafard, t'as un petit coup de démotivation, ça passe. T'es pas dans le même registre, tu vois. Et moi, je sais que je passe beaucoup de temps à me plaindre quand j'ai un problème. Il faut que tout le monde soit au courant et qu'il soit au courant 100 fois. C'est-à-dire que si je suis fatiguée, je vais envoyer 500 messages de oh, « Putain, qu'est-ce que je suis crevée aujourd'hui ?» Alors que je suis fatiguée tous les jours. Hein. Les gens, ils le savent que je suis fatiguée. C'est bon, j'ai plus besoin de le dire. C'est une évidence. Taous égale fatigue. mais du coup, d'un côté, je trouve que c'est important d'exprimer ses émotions, quelles qu'elles soient, et qu'on vit dans une société qui a tendance à rejeter les expressions négatives. On a besoin de dire quand le monde est à chier, quand on est en colère, quand on n'est pas bien, on a le droit de le dire. On n'est pas obligé d'être performant tout le temps. Faut arrêter. On n'est pas des articles médiums. Ça commence à me saouler, cette histoire de non mais le bien-être et puis lève-toi tous les matins à 6h et puis salut le soleil et ta race. Putain, j'ai envie de dormir. Laisse-moi. Faut s'écouter. Oui. Et encore une fois, il y a des moments où faut arrêter de s'écouter. Et faut faire la différence entre chouiner pour se trouver des excuses et se faire plaindre et chouiner parce que t'as besoin de le sortir. Et ça, c'est chaud.
Je sais pas, moi, pour le coup, le truc de pas se plaindre, je crois que c'est vraiment... je trouve que je me plains beaucoup, tu vois.
Ouais.
Je suis souvent en train de râler, moi. J'adore râler,
mais
parce que
aussi.
Je trouve ça drôle, en fait.
Mais
en
oui
plus, c'est aussi une partie de mon humour, c'est de faire des tours cyniques sur des trucs.
Mais pareil.
Les gens le voient pas dans Nouvelle École, parce que je suis gentil et bienveillant. Mais en vrai, je râle. Et là, j'ai un petit... j'ai fait un truc d'article médium. C'est que j'ai un petit bracelet, tu vois.
Tu claques ?
Non.
Ah.
Je me plains, c'est... Non. C'est qu'en fait, je m'en sers pour des... quand je veux remarquer des choses. Et du coup, là, quand je me plains et que je m'entends me plaindre, je change le truc de bras.
Ah.
Et ça me fait juste me prendre conscience de quand je me plains, tu vois.
D'accord.
Alors, c'est un peu la 10e fois que j'essaye ça. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 3 jours, je le jette. Genre, ah putain, j'en ai marre. C'est vraiment une vie qui me fait chier. Je continue à me plaindre, tu vois. Mais bref, je fais ça.
Non, mais c'est ça aussi, il faut faire attention aux contraintes du bonheur, parce que avec tous ces trucs de self-help et compagnie, il y a plein de gens qui donnent des règles, ouais, et des trucs et des rituels et des machins, et du coup tu te retrouves à te mettre la pression toute la journée de alors attends, faut que je change mon bracelet de place, et puis là j'ai mis ce pied gauche alors que j'avais dit que je mettais le pied droit.
En fait, c'est la pression d'avoir l'impression que tu vis pas bien ta vie.
Voilà.
Tu la vis pas encore, mais c'est encore une histoire de vivre selon les règles.
Ouais.
C'est est-ce que je vais avoir une bonne note sur 20 à la fin de ma vie?
Ouais.
Est-ce que on va me dire bah t'as été bien productif, ça va, t'as bien produit.
Bah ouais.
Et ouais, moi je suis dans une remise en question de tout ça qui d'ailleurs un peu. Compliqué, parce que des fois je me lève le matin et je me dis mais à quoi bon,
ouais,
tous les trucs.
Bah, le pire, c'est, moi, je sais que les matins qui sont difficiles, c'est ceux où je me dis alors là, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais me lever, je vais aller me laver, je vais me faire un café, et je vais m'habiller, et je vais aller faire ci, et après demain faudra refaire pareil, et après demain faudra refaire pareil, et là je me dis mais j'ai pas envie, ça me saoule. Alors qu'en vrai, il y a plein de jours où je me pose pas la question de ce que je fais ou pourquoi je le fais et point barre, c'est automatique. Mais quand tu commences à flipper de faire des trucs normaux, tu perds complètement le contrôle du reste, en fait. Il n'y a plus de qu'est-ce que je fais pour mon bonheur, qu'est-ce que je fais pour mon malheur, qu'est-ce que je fais pour ceci, qu'est-ce que je fais pour cela. C'est juste qu'est-ce que je fais, point, et pourquoi je le fais. Et là, tu pars dans un truc complètement un trip existentiel à la con et tu te perds parce qu'il n'y a pas de réponse, quoi.
Justement, je suis beaucoup revenu de la question pourquoi ces derniers temps. C'est que j'en ai un peu marre de demander pourquoi à tout, tu sais.
Ouais.
Parce que pourquoi, ça te fait toujours chercher la réponse dans le passé en plus.
Bah, ouais.
Toujours en train de te dire mais pourquoi je vais pas bien, mais parce que mes parents, ils étaient comme ça. Et en fait, il n'y a pas de solution à ces trucs.
Bah non.
Et j'essaie plus de me dire. Ok, comment, tu vois, enfin, qu'est-ce que je fais, du coup? Et j'en arrive à des trucs très bateaux récemment, mais c'est des trucs, en fait, si c'est marrant, c'est cool de le faire.
Bah ouais.
Et c'est à peu près tout ce qui guide ma vie ces derniers temps, tu vois. Est-ce que c'est fun? Est-ce que je me sens bien, tu vois?
Ouais.
Mais bon, j'ai conscience de pas avoir révolutionné le monde du self-help pour dire ça là. Je voulais parler d'un dernier truc.
Ouais.
Et tu me dis si on peut en parler. Parce qu'il y a un truc qui revient beaucoup dans ce bouquin, c'est l'amour. Et c'est, on voit bien que tous les gens, quand ils étaient ados, ils étaient comme je suis encore. Tu crois que tu ne te suffis pas à toi-même.
Ouais.
Et du coup, ce que tu cherches dans l'amour, c'est l'autre ouais. partie, quoi. Ce qui va te compléter et qui fait qu'enfin, tu vas te sentir bien et que ça vaudra le coup. Et alors, si je ne m'abuse, et tu me dis si on peut en parler ou pas, tu es dans une relation libre.
Oui.
Est-ce qu'on peut en parler?
Oui.
Cool. Parce que ça m'intéresse énormément. Parce que j'ai l'impression que pour être dans une relation libre, donc une relation libre, est-ce qu'on peut définir rapidement? Est-ce que tu peux me définir?
Alors, c'est un couple qui s'autorise à aller voir ailleurs, à avoir d'autres rapports sexuels avec d'autres personnes. Après, selon les couples et les règles, ça diffère vachement. Il y en a qui s'autorisent des relations amoureuses. Et là, on va parler plutôt de polyamour. Nous, on est vraiment dans un truc charnel de... Nos cœurs sont monogames, on est en relation l'un avec l'autre, on n'a pas d'autres relations avec les gens, mais par contre, on peut avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes, à la condition, évidemment, de prévenir ces personnes-là, parce qu'on n'est pas des connards non plus. On énonce clairement les règles dès le début de « ça n'ira pas plus loin, tu ne prendras pas plus de place, il y a une personne qui a cette place-là que tu n'auras pas ». Sauf si jamais il y a quelqu'un qui te retourne le cerveau, on n'est pas à l'abri de ça, on sait très bien que ça peut arriver. Hein, mais
c'est pas angoissant ça, par exemple?
Bien sûr que si, c'est angoissant.
Et autre chose, en pratique, ça arrive du coup d'avoir les relations sexuelles avec d'autres personnes?
Oui.
Ok, donc vous êtes vraiment dans une relation libre?
Oui, tout à fait. Après, je pense qu'on est, je vais pas parler à sa place parce que c'est pas mon rôle, mais on est très différents dans ce qu'on recherche et la raison pour laquelle on est dans ce modèle de relation.
Mais tous les deux, vous vouliez ça
Alors non, c'est lui. Et c'est lui au début, mais vraiment avant qu'on se roule notre première pelle, qui m'a dit « je te préviens, moi j'ai envie de ça, mais si toi tu veux pas, il n'y a pas de souci, je respecte, je vais pas te courir après, je vais pas te forcer, si tu changes d'avis en cours de route, je te retiendrai pas ». Et du coup, comme moi j'ai un gros problème, enfin j'avais à l'époque un énorme problème de possessivité et de territorialité, c'est-à-dire qu'un mec avec qui j'avais couché il y a 15 ans, si je le voyais avec une autre meuf, ça m'énervait. Ce qui est absurde parce que j'avais pas du tout envie de recoucher avec lui, mais c'est genre, ben non, en fait, je l'ai marqué. Hein, donc, à vie, il ne doit penser qu'à moi et n'être obsédé que par moi et ne penser à personne d'autre et devenir moine. C'est débile et c'est vraiment un truc d'ego. Et j'avais envie de travailler là-dessus.
Non, c'est pas vraiment débile en fait. C'est logique.
Oui, c'est animal quoi. C'est vraiment, j'ai pissé dessus quoi, c'est à moi. Mais ouais. Bon, sauf que je fais pas vraiment pipi sur les gens. Je tiens à rétablir cette vérité.
Pas obligé d'aller aussi loin dans le.
Mais du coup, je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour moi de travailler sur ce truc-là. Mais on s'est vraiment lancé là-dedans en se disant, bah, ça va être un amour d'été, on va expérimenter, puis on tombera pas amoureux. Et en fait,
ça fait combien de temps que ça dure?
Ça fait un peu plus de 4 ans et demi maintenant.
Ouais, et bah, voilà pourquoi ça m'intéresse. Parce que de tout ce qu'on a parlé, de tout ce qui ressort du livre, il y a beaucoup d'insécurité, de peur de pas être accepté, ouais. De peur de l'abandon. Moi, je suis le champion de la peur de l'abandon, tu
moi
vois.
Moi aussi.
Et bah, justement, alors moi, je me dis, je sais pas si j'aurais les. J'ai l'impression que les relations libres, c'est fait pour les gens qui ont confiance en eux et qui se disent, bah ouais, je sais ce que je vaux, je suis stylé.
Ouais.
Et moi, je me dis, bah. Moi, je suis terrifié. Quand je suis avec une fille, je pense qu'à une chose et je me dis, mais en fait, c'est sûr qu'elle va partir.
Bah oui.
Et du coup, je me dis, bah, je pourrais pas être là-dedans, tu vois. C'est pour ça que.
En fait, c'est très paradoxal parce que, effectivement, ça te met face à ces peurs, mais alors vraiment le nez dedans, tu peux pas y échapper. Mais en même temps, c'est extrêmement sécurisant quand ça se passe bien parce que tu sais qu'il y a aucune menace, rien qui peut te détrôner. Parce qu'il n'y a pas justement la peur de la personne qui va lui passer sous le nez un soir et qui va lui retourner la tête et qui va remettre en question tout le couple. Et moi, quand je vois un mec qui me plaît en soirée, je ne me dis pas « putain, merde, je suis en couple et j'ai vraiment envie de ce mec-là ». Et du coup, tu te montes la tête pendant des semaines. Alors qu'en fait, je couche avec une nuit, je me dis « ok, c'était cool ». Et puis je repasse à autre chose et je me rends compte que ma relation, elle est mortelle et que je suis très bien dedans.
Et tu le préviens? Enfin, vous vous dites quand vous couchez avec une autre personne?
Alors lui, moi, je veux pas qu'il me dise. Pour moi, c'est sa vie intime, c'est sa vie privée, ça le regarde. Je veux pas être au courant.
Donc tu veux pas, en fait, toute sa vie privée, en fait. Tu veux lui laisser une sorte de jardin.
Ouais, mais parce que, en fait, on est un couple, c'est deux individus, c'est pas un nous, c'est pas une entité. Et je pense que c'est très important de garder
ça,
cette individualité.
Parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire, un couple, c'est un nous.
Voilà. Et moi, ça, c'est un truc que je n'aime pas et qu'il n'aime pas non plus et qu'il aborde même. Du coup, c'est vraiment c'est extrême. Donc, on a fini par se rejoindre là-dessus après avoir fait face à nos peurs parce qu'on en a tous les deux. Lui, il avait super peur de devenir un nous et moi, j'avais peur de ce rejet du nous au début parce que je me dis, bah, en fait, je comprends pas, il veut pas que je fasse partie de sa vie. Et j'ai fini par comprendre que c'était pas du tout ça le problème et que c'était effectivement ce côté, bah, on est des êtres humains libres. On vit nos expériences propres, chacun dans notre coin, on a nos vies, on a nos relations, on a tout un tas de trucs en dehors de notre couple. Notre couple, c'est un truc mortel, c'est un cocon qu'on a au milieu de nous deux et qui n'appartient qu'à nous, mais on n'est pas que ça, et on existe sans ça. Et c'est pour ça qu'on est super énervé, par exemple, quand il n'y en a qu'un de nous deux qui est invité à une soirée, parce que les gens partent du principe que si l'un est invité, bah, l'autre y sera aussi, parce qu'ils invitent une personne du couple pour représenter le couple. Et ça, ça m'énerve à chaque fois, parce que je me dis, mais putain, non, invite-moi en mon nom propre, pas en tant que meuf d'eux, et lui, inversement, pas en tant que mec d'eux.
Donc c'est assez sain, en fait. C'est que vous, ça, c'est un peu la résolution du problème qu'il y a toujours dans le livre, qui est que les gens ne sont pas assez tout seuls, et ouais. qu'ils ne s'aiment pas assez. En fait, vous essayez de construire un truc où vous aimez chacun assez individuellement,
exactement.
Pour ne pas avoir être toujours...
Voilà.
Mais dépendant c'est... de l'autre, c'est ça ?
Exactement. Mais moi, par exemple, mon syndrome de l'abandon, c'est un gros, je vais pas dire problème dans notre couple, parce que c'est pas un problème, mais c'est un truc qui est présent. Et il y a plein de moments où je le sollicite parce que je suis en angoisse et que lui, il peut pas me rassurer à ce moment-là parce qu'il fait un truc X ou Y ou que lui-même, il est pas en état psychologique parce qu'on peut pas toujours être le soutien d'une personne. Et où là, ça part en vrille parce que je me dis, bah, ça y est, il m'aime plus, il m'abandonne, c'est horrible. Et que lui, ça fait 4 ans et demi maintenant qu'il me répète tout le temps à quel point il m'aime et je sais rationnellement à quel point il m'aime, je le vois et c'est, j'ai jamais été aimée comme ça de ma vie et inversement je pense que c'est vraiment ce qu'on partage, c'est magnifique que ça dure toute notre vie ou pas, je m'en branle le fait qu'on le vit là et que c'est vraiment chouette et quand je suis en angoisse j'ai du mal à voir ça, c'est-à-dire que là je t'en parle parce que je vais bien et du coup je suis capable d'en parler, mais quand je suis en angoisse de on m'abandonne et on m'aime plus, ça n'existe plus, ça tout est effacé. Tout ce qu'il m'a dit, tout ce que je sais de nous s'efface complètement et je me retrouve face à mon gouffre sans fond. Et encore une fois, ma psy, c'est ce qu'elle m'a expliqué et elle a vraiment pas tort là-dessus, c'est que c'est pas à lui de le remplir ce gouffre. C'est à personne d'autre de le remplir. Il y a que moi qui peux le combler. C'est-à-dire que je vais pas le remplir en fait, je vais le condamner tout simplement parce qu'il ne peut pas être rempli.
Comment tu fais pour le condamner ?
J'arrête d'écouter ces appels de j'ai faim et de me concentrer sur ce que je sais, sur ce qui est rationnel, sur ce qui est palpable et de ne pas céder à l'irrationnel parce que enfin quand je me réveille un matin en me disant bah c'est bon mon mec va me quitter, il me déteste, ça n'a aucun fondement et il suffit que j'envoie un texto à mon mec pour qu'il me dise mais t'es débile ou quoi, enfin il me parle pas comme ça heureusement mais pour qu'il me rassure immédiatement et que je me dise mais pourquoi je suis partie aussi loin alors qu'il n'y a rien ? Il n'y a vraiment rien qui a provoqué ça. C'est juste un sentiment d'un coup de... J'étais fragile psychologiquement et du coup, je suis partie en vrille sur un sujet à la con et j'en ai fait sa responsabilité. Et comme lui, il m'aime et qu'il veut que je sois heureuse, il va prendre une partie de cette responsabilité et essayer de me rassurer. Mais au bout d'un moment, il faut que je comprenne et que lui aussi comprenne parce que du coup, il se retrouve dans une position de sauveur alors que ce n'est pas mon putain de sauveur, c'est mon mec, quoi. C'est pas mon psy, c'est pas ma mère, c'est mon mec. Et il faut que j'arrive dans ces moments-là à prendre ce que lui a à me donner et à me contenter de ça, parce que c'est un être humain qui ne peut pas donner plus que ce qu'un être humain peut donner. Et moi, ce dont j'ai besoin, enfin, ce dont je pense avoir besoin, c'est un truc que personne ne peut me donner, que je n'aurai jamais. C'est-à-dire que l'amour de mon père que j'estime ne pas avoir eu, je l'aurai jamais. Il est mort, donc de toute façon, c'est trop tard. Ces années collège où j'aurais aimé être adulée de tous, enfin, même pas adulée, juste acceptée, tolérée, je les aurais jamais. Les hommes importants, les figures paternelles de ma vie qui ont foiré, eh ben, elles ont foiré, elles seront jamais... c'est bon, j'ai 30 piges, maintenant, j'aurai plus jamais de figure paternelle, c'est terminé. Je peux pas réparer tout ça, je ne peux pas l'annuler et recommencer. Je peux juste construire autre chose et me contenter d'autre chose et trouver mon bonheur ailleurs. Et sauf que c'est hyper difficile de se dire, putain, tu sais, c'est comme la dépression, encore une fois, c'est... Tu sais qu'il y a qu'une personne qui peut t'en sortir, c'est toi. Ouais. T'es la seule personne à pouvoir agir sur ça en allant demander de l'aide, en prenant un traitement potentiellement, en faisant les étapes nécessaires pour pouvoir aller mieux.
Y a un sentiment d'injustice qui est dur à laisser partir, quoi.
Voilà, parce que, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai attendu professionnellement qu'on me tende la main et qu'on vienne me chercher, parce que toute ma vie je n'ai attendu que ça, c'est que quelqu'un vienne s'occuper de moi. Et en fait, bah, c'est moi que j'attendais. C'est moi qui dois m'occuper de moi. Et sauf que moi, bah, elle n'a pas envie, parce qu'elle a envie qu'on s'occupe d'elle. Donc on se retrouve
Tu le fais quand même, tu le fais avec les bouquins notamment.
Voilà, donc je trouve petit à petit des mécanismes et des façons de faire le deuil de
c'est
ça.
C'est ce que tu dis d'ailleurs, tu dis ça, allez, je te cite. Non, enfin, je ne l'ai pas trouvé en fait. Mais tu sais, tu parles de créer, et que c'est de créer qui t'aide à te sortir de tes trucs. Ouais, je ne trouverai pas la citation, parce que
oui,
j'ai mal fait mon travail de journaliste.
Non, bah ça c'est l'armée de loups-garous.
Eh, bon, c'était spoiler, marrant spoiler. Ça d'ailleurs.
Ouais, ça doit être ce paragraphe-là. Tu vas réussir à
tu vas sublimer tout le mal qui t'a été fait pour le transformer en énergie créatrice.
C'est ça.
Ça valait le coup d'arrêter le podcast pendant 10 minutes pour lire 5 mots.
Non, mais c'est vrai que la notion de sublimation, c'est un truc que ma mère m'a appris très tôt pour le coup. J'avais écrit un vieil article sur Mademoiselle à l'époque où la saison 1 de Girls était sortie, c'est-à-dire c'est sa date. Parce que je trouve que c'est ce qu'a fait Lena Dunham. Alors je suis vachement revenue sur ce que je pense de Lena Dunham depuis, parce que je trouve qu'humainement, elle est nulle à chier, mais ça c'est une autre question. Mais je trouve que dans Girls, il y avait vraiment ce sentiment de sublimer tous ses défauts pour en faire quelque chose de créatif. Et donc forcément, tu présentes des personnages qui sont pleins de défauts et qui ne sont pas aimables au sens premier du terme, mais parce que c'est ce que tu as au fond de toi et c'est ce que tu as envie d'exprimer. Et c'est faire du beau avec du moche, ou même faire du moche, mais qui a vocation à être moche. Et du coup, ça en devient beau et intéressant. Et c'est ce que je fais dans toute ma vie, en fait. Dès que j'ai un problème, une analyse qui arrive, un nouveau truc, un nouveau bilan que je fais, j'essaye de l'intégrer soit dans mon boulot, soit dans ma vie personnelle, soit les deux, de voir ce que je peux en tirer. Et puis, advienne que pourra, quoi. Et surtout, je pense que plus j'avance, et ça, je pense que c'est aussi une question d'âge, mais plus j'avance, plus je me dis, allez, je m'en balance. Franchement, je m'en fous. C'est pas grave, ça va passer. C'est une mauvaise journée, c'est une mauvaise semaine, c'est un mauvais mois, peu importe. Ce projet, ça a pas marché, on s'en fout. C'est qu'il avait pas, à naître, ou alors il est pas encore prêt, ça viendra peut-être un jour, on sait pas. Cette personne m'a saoulé, c'est pas grave. Parce que du coup, je peux me retrouver à être vénère pendant 3 jours parce qu'une personne m'a bousculé dans le métro, quoi. Alors que cette personne, elle m'a bousculé, elle a fait 3 pas, elle a oublié mon existence. Moi, pendant 3 jours, je vais être là en train de dire... Et je me pourris la vie, moi, pour un truc de merde. Mais il y a plein de moments comme ça où je me laisse bouffer par des trucs et je m'en veux. Et du coup, c'est sans fin parce que déjà, je me laisse bouffer par le truc, donc c'est long et c'est chiant. Et après, en plus, je m'en veux de m'être laissé bouffer, donc je me flagelle encore un coup en disant « Ah, qu'est-ce que je suis nul !» Et après, je vais pleurer chez ma psy qui me dit « Non, mais faut arrêter les conneries. » Et je repars en disant « Ah oui, c'est vrai, faut arrêter les conneries. » Jusqu'à ce qu'il y ait un autre truc qui m'irrite, et alors là, je repars dans une boucle.
Ce que tu as en train de décrire, c'est un cycle où à chaque fois, juste t'apprends un tout petit peu mieux,
ouais,
par itération,
bah ouais,
à moins de faire de mal.
Bah ouais, mais ça prend du temps. Et ça, c'est un truc aussi que j'apprends à accepter maintenant, c'est ça prend du temps.
Bah, la preuve que ça prend du temps, c'est le temps qui est passé entre les déprimes de tous ces gens et les conseils qui se donnent. Ben merci beaucoup, Taous, oui. Jack Parker, d'être passé sur Nouvelle École. Le livre s'appelle « Lettre à l'ado que j'ai été ». Il sort chez Flammarion.
Ouais.
Il sort le 14
ouais,
mars.
14 mars.
Est-ce qu'il est en précommande ?
Ouais, tout à fait.
Alors, où est-ce que les gens peuvent le précommander ?
Sur toutes les plateformes de vente en ligne.
Je mettrai un lien.
Voilà.
Je mettrai un lien, je mettrai même un lien d'affiliation peut-être. Ça me fera peut-être un peu de pognon.
Oui, et bah tu fais bien.
On verra.
Je le fais moi-même avec mes propres bouquins, je mets des liens d'affiliation.
Moi, tout ce que j'achète, je l'achète avec mes liens d'affiliation sur Amazon. Je me dis si je peux récupérer 1 ou 2 euros.
Ouais, franchement. Ouais.
Merci beaucoup.
Bah, merci à toi.
Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_nouvelle-école, _ c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelle-école.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelle-école-podcast et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.